CILS FM, la voix de votre communauté.
Le projet Cap-Ouest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, la voix des prairies, Gravelbourg.
CHPL 92.1 FM, Plamondon.
CIBR Radio Taïga 103.5, Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Rendez-vous hebdomadaire d'informations sur les sports et la santé. Alexis Gagnon au micro avec vous au cours des 60 prochaines minutes. On a un gros menu cette semaine pour vous. Restez bien accrochés. On aura, en plus des revues de presse habituelles, deux nouvelles chroniques enlevantes de Marie-Hélène Bourret. Et Julie Gagnon nous apportera un éclairage fascinant sur une nouvelle technique de procréation. Bonne mission à tous! Santé Magazine, c'est tout de suite à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. On débute l'émission avec une dose d'actualité sportive. J'ai opéré une petite sélection pour vous des récentes actualités et on commence avec le match des étoiles de la LNH. Vous en avez sans doute entendu parler. Alors, quelques mots à propos de ce match étoile qui aura lieu le 29 janvier. On retrouve un communiqué très éclairant sur le portail LNH.com signé par Robert Laflamme. La LNH annonce la composition des équipes d'étoiles. Carey Price ne sera pas l'unique représentant des Canadiens de Montréal au cours de la fin de semaine du match des étoiles de la LNH qui aura lieu les 28 et 29 janvier au Staples Center de Los Angeles. Le défenseur Shea Weber et l'entraîneur Michel Therrien accompagneront le gardien vedette au sein de l'équipe de la section Atlantique. Shea Weber fait partie des 40 joueurs invités mardi par la LNH à compléter les équipes des quatre sections qui vont se livrer un mini-tournoi à 3 contre 3. La formule instaurée l'an dernier à Nashville avait connu beaucoup de succès. Michel Therrien, quant à lui, est l'un des quatre entraîneurs sélectionnés parce que le Canadien est l'équipe de sa section qui présente le meilleur pourcentage de récolte de points au classement, à la mi-saison bien sûr. John Tortorella, des Blue Jackets de Columbus, Bruce Boudreau du Wild du Minnesota et Peter DeBoer des Sharks de San Jose seront les trois autres entraîneurs. Dans l'équipe de la section atlantique de l'Association de l'Est, qui a comme capitaine Carey Price, en vertu de son élection récente au scrutin populaire, on retrouve en plus de Shea Weber, la jeune sensation des Maple Leafs de Toronto, l'attaquant Austin Matthews, qui a été le premier choix au repêchage 2016 de la LNH. Les autres membres sont le gardien Tuukka Rask des Bruins de Boston, les défenseurs Victor Hedman du Lightning de Tampa Bay et Erik Karlsson des Sénateurs d'Ottawa. Les attaquants Brad Marchand des Bruins, Nikita Kucherov du Lightning, Franz Nielsen des Red Wings de Détroit, Vincent Trocheck des Panthers de la Floride et Karl Okposo des Sabres de Buffalo. Alors voilà. L'article se poursuit sur plusieurs paragraphes. Vous avez toute la composition des équipes d'étoiles lors de ce week-end du 28 et du 29 janvier à Los Angeles, si ça vous intéresse, sur le portail lnh.com. Et sinon, toujours à propos de Carey Price, qui a connu une contre-performance il y a quelques jours face au Minnesota, les partisans du Canadien qui sont nombreux partout au Canada sont très inquiets à propos du gardien étoile. Et un article fort intéressant a paru sur le portail de TVA Sport, tvasport.ca, qui s'interroge justement sur cette contre-performance de Carey Price face au Wild du Minnesota. Et TVA Sport revient dans cet article sur d'anciennes contre-performances qu'avait livré Carey Price, notamment en 2010, occasion au cours de laquelle il avait demandé aux médias de se calmer un peu, de « chill out », entre guillemets. C'est une expression qu'il avait employée et qui est restée mémorable. Et il aurait pu, justement, dit cet article, la réemployer à nouveau au lendemain de la défaite du Canadien de Montréal contre Minnesota. Défaite qui s'est terminée au compte de 7-1. Et c'est Price qui était devant le filet durant toute la partie. Donc, Price n'est plus le même depuis que Michel Therrien l'a retiré d'un match opposant le Canadien aux Sharks de San Jose. L'entraîneur Michel Therrien avait en effet retiré Carey Price, qui n'avait pas semblé apprécier cette décision de l'entraîneur. D'autres partisans s'inquiètent sur le rendement récent de Carey Price et pensent que Price nous cache quelque chose. Donc, ce sont des commentaires qui s'aperçoivent en grand nombre sur les réseaux sociaux ces jours-ci, et l'article paraissant dans TVA Sport en fait état. On se demande s'il est fatigué, donc si le joueur vedette du Canadien est tout simplement fatigué, comme d'autres coéquipiers du Canadien. Il ne faut pas oublier que le Canadien de Montréal, en l'espace de 20 jours seulement, a disputé 10 matchs, dont 9 sur des patinoires adverses, donc c'est-à-dire hors de Montréal. Et le Canadien a quand même trouvé le moyen de récolter 12 points au cours de cette période. Alors, si vous voulez lire sur les récents matchs de Carey Price et l'inquiétude que ses performances récentes suscitent chez les partisans, cet article de TVA Sport est pour vous. Alors, on va rester dans le dossier du Canadien de Montréal, équipe vraiment suivie un peu partout au pays. Le bilan de mi-saison du Canadien, c'est l'analyste Andrew Berkshire qui propose ce bilan sur le portail rds.ca en date du 13 janvier. Bien sûr, l'article est très long puisqu'il passe en détail les performances de chaque joueur du Canadien. Mais allons tout droit au cas de Paul Byron, qui a fortement impressionné cette année. Après un début de saison fumant, je m'attendais à ce que Byron ralentisse un peu, écrit Andrew Berkshire dans cet article, mais ça n'est pas arrivé. Paul Byron génère beaucoup de chances de marquer, un petit peu moins dernièrement, mais presque toutes ses occasions de marquer surviennent lors d'échappées ou de buts faciles. Cette année, il est le joueur décochant le plus souvent ses tirs depuis les zones payantes de la patinoire, ce qui lui a permis d'établir des sommets personnels pour les points et les buts. Il n'est pas possible de demander plus à Paul Byron, il a été tout simplement spectaculaire. Daniel Carr, à présent, après un début de saison très décevant, les présentes données de Daniel Carr commencent à ressembler à celles de l'an dernier, moment où il excella pour produire des chances de marquer et où il fut très dangereux près du filet. Daniel Carr a généré le quatrième plus grand nombre de chances de marquer chez le Canadien en ce deuxième quart de saison, mais il demeure extrêmement malchanceux, n'ayant inscrit qu'un seul but cette saison. Par conséquent, le personnel d'entraîneur ne lui a pas donné beaucoup d'opportunités, récompensant davantage les résultats que le progrès. Cependant, Daniel Carr est prêt à éclore si la chance lui est donnée pour quelques parties successives. Un petit mot sur Philippe Dano de la part de cet analyste Andrew Scheer dans le portail rds.ca. C'est possiblement la plus grande surprise chez le Canadien cette année. Philippe Dano, dis-je bien, continue de me faire regretter d'avoir mentionné l'an passé qu'il serait probablement un joueur de quatrième trio. Alors, Andrew Scheer, ici, reconnaît une erreur d'évaluation. Selon lui, en date d'aujourd'hui, Philippe Dano est un de ces joueurs qui s'améliore en cours de route et durant l'entre-saison. Il démontre un niveau de talent que j'ignorais qu'il possédait. Cela l'aide certainement d'évoluer au centre avec Pacioretty et Radulov, mais en ce deuxième quart de saison, Philippe Dano fut le meilleur joueur de l'équipe en échec avant et son travail acharné a permis à ses compagnons de trio de générer plus d'offensives. Alors, allez-y consulter cette analyse de mi-saison proposée par Andrew Berkshire sur le portail rds.ca. C'est très éclairant et ça se poursuit sur de nombreux paragraphes. Il aborde vraiment la fiche de pointage et de performance de chaque joueur de l'équipe. Alors, on va se transporter dans une autre discipline. Maintenant, je vous parle de ski alpin. Lindsey Vonn, la grande championne américaine, n'aura pas la tâche facile pour son retour à la compétition. C'est une brève qui paraît dans les colonnes de l'Associated Press en date de vendredi 13 janvier. Lindsey Vonn devra disputer un entraînement et une descente à quelques heures d'intervalle seulement à son retour sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin en Autriche. Donc, Lindsey Vonn, quatre fois championne du classement général de la Coupe du Monde et sa coéquipière américaine Julia Mancuso doivent effectuer leur retour en Coupe du Monde précisément ce week-end après de longues absences en raison de blessures. Alors le titre de cette dépêche, Lindsey Vonn n'aura pas la tâche facile. Et maintenant, dans les colonnes du journal de Montréal, un petit peu de tennis à propos d'une sensation de tennis qui s'appelle Félix Auger-Aliassime. C'est un joueur junior. Il est adolescent, mais est très prometteur pour l'avenir. Ses performances sont vraiment épatantes. Alors, on a un article de Richard Boutin dans le journal de Montréal à propos d'un récent tournoi disputé par Félix Auger-Aliassime. Il a écarté le favori pour atteindre la ronde de quart de finale en Floride dans un tournoi USA F3 Futures. Auger-Aliassime, qui est originaire du Québec, a défait Peter Korebko en deux manches identiques de 6-4 jeudi et il avait une vingtaine de partisans venus l'encourager. Alors, c'est une très belle performance. On le verra certainement atteindre de très hauts sommets dans le circuit professionnel dans quelques années. Retenez ce nom, Félix Auger-Aliassime en tennis. Alors, je vous parlais de tennis justement dans le but de transiter vers les internationaux de tennis d'Australie qui vont débuter dans quelques jours seulement. Ça se dispute en Australie du 16 au 29 janvier. On va bien sûr surveiller l'athlète canadienne Eugénie Bouchard qui effectue une remontée dans le classement mondial de tennis. On espère qu'Eugénie Bouchard pourra avoir le dessus sur les grandes raquettes du circuit ATP. On va suivre ça attentivement. En attendant, le tournoi de Sydney en Australie, en quelque sorte un tournoi préparatoire à l'aube des internationaux d'Australie qui vont commencer incessamment sous peu, s'est clôturé avec la victoire de Joanna Konta, qui est une Britannique. Alors, à surveiller au cours des prochains jours, cette Britannique qui avait justement vaincu Eugénie Bouchard, et c'est la consolation en quelque sorte d'Eugénie Bouchard, puisqu'elle a été vaincue par la grande championne du tournoi de Sydney. Alors, peut-être que l'affrontement se reproduira aux internationaux de tennis dans quelques jours, c'est à suivre. Voilà pour la livraison de calories sportives. Et au retour de la pause musicale, interprétée par le quatuor François Bourassa, je retrouve en studio ma collègue Marie-Hélène, dont les deux chroniques aujourd'hui évoquent l'un de ses sujets de prédilection, les sports extrêmes. À tout de suite. We'll be right back.
Vous écoutez Sport et Santé Magazine. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Nous accueillons en studio Marie-Hélène pour une nouvelle chronique sportive. Je sens que ça va être insolite et pas piqué des verres.
Absolument. Aujourd'hui, on parle de sport extrême.
Ah oui,
je t'ai joué un tour parce que j'ai pas préparé les chroniques dont
on a déjà parlé de sport extrême, donc on voit que tu as des petits choix éditoriaux qui se font parfois.
Oui,
des préférences.
Ça. Des préférences. Ben, en fait, on va donner la définition d'un sport extrême, c'est-à-dire que c'est un terme populaire désignant une activité sportive particulièrement dangereuse pouvant exposer à des blessures graves en cas d'erreur dans son exercice. Ces sports peuvent se pratiquer sur mer, dans le ciel ou sur terre, ou entre les deux.
Est-ce que c'est parce que tu étais adepte de ce genre de truc casse-cou quand tu étais jeune?
Non. Moi, ma vie a été assez mouvementée sans aller dans les sports extrêmes.
Okay.
La première fois vraiment où on entend parler de quelque chose de ce genre-là, mais en fait qu'on a pu répertorier, c'était Ernest Hemingway en 1950 qui donnait une définition très large.
Oui.
Il disait, il y a seulement trois sports, la tauromachie, la course automobile et l'alpinisme. Tous les autres ne sont rien que des jeux d'enfants.
Alors, voilà qui est parlé comme Ernest. Avec beaucoup de testostérone.
Oui, c'était
vraiment ça. Et de machisme.
Oui. Alors, en plus, parce que c'était vraiment des sports d'hommes ce moment-là. Alors, ça a évolué évidemment au cours des années, mais à partir de 1990, il y a eu une espèce d'autoproclamation de sport extrême et c'était dans le but de valoriser l'activité. Alors, si on faisait, par exemple, du parachutisme, on disait « c'est un sport extrême
okay. ».
Si on faisait de la planche à voile, « c'est un sport extrême,
d'accord.
Venez chez nous ». Alors, tous ceux qui étaient recherche d'une identification plutôt…
Emploi abusif du terme
c'est ça.
Sport extrême à un moment donné.
Ouais, sauf que il y a de plus en plus de nouveaux sports, et je les mets entre guillemets, toi qui me regardes, il y a des sports aériens, donc il y a le ballet aérien, le base jump, c'est-à-dire sans parachute, le saut à l'élastique, qui est quand même assez récent dans notre culture. Ça existait aux îles Fidji depuis des centenaires. Il y a le vol à voile, le deltaplane, le parapente, le funambulisme qui existe depuis longtemps aussi. Mais là, on parle de funambulisme entre deux édifices de 150 étages, par exemple, okay, comme on a eu à Québec il y a quelques années, pour 2008.
Oui.
Saut à ski, parachutisme, sky surfing et sky flying. Alors,
avec des combinaisons de vol,
très haut sur le bord.
À la Spider-Man.
Oui, sur le top de l'Everest, on drop avec ton parachute.
Ou dans les Alpes, ça se pratique un peu partout dans le monde,
absolument.
Et c'est très dangereux, effectivement.
Alors, il y a des sports terrestres comme le supermotard, le motocross, le sidecar cross, le scooter, le tricycle. Sport extrême. Mais ça dépend où tu le pratiques, OK?
Oui.
OK. L'apnée, on a parlé dans une chronique précédente.
M'avais parlé de parcours à un moment donné, un peu plus tôt cette année.
Oui, oui.
Est-ce que le parcours qui consiste à sauter entre des immeubles...
Ben, en fait, tout ce qui est dangereux, même le pogo stick, OK, c'est un pogo, là, tu sautes dessus, ça peut être considéré comme étant un sport extrême. Alors,
donc, si on inventait le ski alpin aujourd'hui, est-ce que ce serait un sport extrême?
Dépendamment de là où tu le pratiques.
C'est ça. OK.
C'est-à-dire, le ski alpin, si tu le fais dans des endroits où il y a des falaises, les gens comparent régulièrement dans les montagnes rocheuses ici, là. C'est un peu une espèce de sport extrême, parce qu'on dit « allez pas là, c'est dangereux ». Ils s'y vont pareil. Alors, tout ce qui est, on revient à notre définition, alors c'est qu'un sport qui peut pratiquer, qui peut provoquer des blessures graves en cas d'erreur ou même la mort.
D'accord. Est-ce que dans tes chroniques précédentes, lorsque tu me parlais d'un sport insolite, il y avait parfois une association internationale de…
Ouais. Mais pas là-dessus, parce que là-dessus, les sports,
parce
que tu as plusieurs sports, alors chacun des sports a son truc. Alors, on se demande pourquoi que les gens qui pratiquent les sports extrêmes, on dit souvent, c'est des accros à l'adrénaline. Ben parce qu'il y a effectivement quelque chose qui se développe chimiquement dans le corps. Quand on est exposé à un danger, notre corps se met à sécréter de l'adrénaline et ça nous fait ressentir la peur. Et ça prépare notre corps à réagir rapidement, le système digestif va ralentir, le sang va se retirer des zones digestives pour aller dans les muscles pour permettre la fuite ou le combat, parce qu'on est en danger, on ressent des papillons dans l'estomac. Parce que c'est le sang qui s'en va trop rapidement. C'est comme si on s'engourdissait à l'envers, si tu veux, pour réagir au stress. Alors, en plus des surdoses d'adrénaline, le cerveau va sécréter de la dopamine, qui est une substance qui est associée avec un sentiment de récompense. En fait, la dopamine est associée à l'addiction parce que ça entraîne un sentiment de récompense. Les gens vont vouloir répéter l'expérience pour avoir la décharge de dopamine dans le cerveau. Alors ça a été expliqué, puis je suis allée voir des liens, il y a toujours des liens quand tu fais des recherches. C'est associé au fait, pense-t-on, que si tu es pour tuer ton adversaire, parce que on parle de...
Oui, ça vient de la nuit des temps. Là,
oui. C'est ça. Mm. Donc, si tu es pour tuer ton adversaire, puis il y a une espèce de tabou normal de préservation d'espèce qu'on se tue pas entre nous autres, eh bien, tu as de la dopamine qui est produite par le cerveau pour te permettre de le faire.
D'accord.
Alors, ça te permet d'accomplir un geste qui, normalement, serait considéré comme atroce parce que tu as de la dopamine dans le cerveau.
Donc, la morale est chimique. Là. Non,
la morale est chimique.
Dans ces quelques instants décisifs entre la vie et la mort.
Et même, on dirait que les gens, du point de vue anthropologique, ça, c'est extrêmement important aussi, que... on est habitué à être des chasseurs-cueilleurs dans la nuit des temps. On a plus d'histoires comme chasseurs-cueilleurs que comme hommes modernes. Et on avait l'habitude de se faire poursuivre par des prédateurs, qu'ils soient humains ou animaux. On reste encore avec ça où notre décharge d'adrénaline, notre stress pouvait se... tout le stress accumulé d'un mois, tu te fais poursuivre une fois par un tigre aux dents de sabre, ben, tu évacues tout le stress du mois, OK?
Ah, mais OK, d'accord.
C'est ça qui explique ici dans la recherche.
C'est une vidange de stress.
Une vidange de stress.
Et ben, si on avait su, on aurait peut-être mené des vies plus saines, finalement.
Plus extrêmes.
Tous les gens qui sont stressés dans les villes.
Ben, on dit même que les gens qui pratiquent des sports extrêmes sont normalement considérés comme des gens étant... plus calme. Est-ce que c'est parce qu'ils font de l'exercice qui est extrêmement fatigant ou est-ce que c'est parce qu'ils ils évacuent ce stress accumulé?
Fascinant.
Et en termes de santé publique, et je termine là-dessus, au Québec, on voit beaucoup plus de blessures causées par les sports conventionnels comme le football, le hockey, le soccer que par les sports extrêmes. Cependant, les sports extrêmes causent des blessures beaucoup plus graves.
Oui.
Et parmi les sports extrêmes, c'est la planche à roulettes.
Le skateboard
qui D'accord. cause plus de blessures. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le parachutisme est une activité plutôt sécuritaire. Mais quand tu tombes, tu te fais mal. Hein?
D'accord. Ben, ça permet de saisir quelques enjeux. Et puis, il y avait vraiment des infos étonnantes dans ce petit topo. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
À tout de suite.
De retour dans Sport et Santé Magazine. Rebonjour Marie-Hélène.
Rebonjour Alexis.
Alors, on a encore de l'adrénaline de la chronique que tu viens de livrer à l'instant. Est-ce qu'on va repartir sur une nouvelle lancée, un nouveau rush?
C'est une lancée un peu éditoriale chiolage.
Okay. Bon, qui va être censurée. Alors, c'est la chronique dont on n'entendra jamais parler.
Ce sont le safari, la chasse aux gros animaux.
Ah.
Alors, safari, qu'est-ce que c'est? C'est un mot swahili qui vient de l'arabe et qui veut dire voyager. Alors, safara en arabe, ça veut dire voyager. Et ça se pratiquait au début, surtout en Afrique noire, mais maintenant, c'est surtout sur la planète. Alors, pendant des décennies, à peu près sur 3 siècles, les Européens, puis les Américains, ont voyagé en Afrique, puis en Asie, pour chasser les gros gibiers, éléphants, rhinocéros, girafes, lions, panthères, etc. Ces espèces sont maintenant toutes menacées, ou sinon en voie d'extinction certaine.
Oui. Donc, quand de richissimes touristes viennent chasser le grizzly ici dans l'Ouest canadien, c'est quelque, en quelque sorte un safari.
Comme on dit en français, you got my drift.
OK, c'est ça.
Par exemple, le lion de l'Atlas.
Oui.
OK, c'est une chaîne de montagnes au nord de
l'Afrique. Oui, qui était éteint, malheureusement.
Qui est éteint, qu'on appelait aussi le lion de Barbarie ou le lion de Nubie. Est une sous-espèce de lion. Alors, ça demeure en lion. Le dernier a été abattu en 1942. Alors, l'ours de l'Atlas et le léopard de Barbarie, qui sont les deux autres principaux prédateurs d'Afrique du Nord, sont désormais respectivement disparus pour le l'ours de l'Atlas et près de l'extinction pour le léopard de Barbarie.
Mmh.
On a vu dernièrement des photos circuler sur les médias sociaux qui montraient des hommes et des femmes qui posaient avec leurs proies fraîchement abattues, éléphants et léopards. Et parmi ces sportifs, les deux fils du président élu Donald Duck Trump.
Alors, et il y a eu le fameux lion africain abattu par un dentiste américain l'année dernière ou l'année d'avant.
Oui, puis il y avait une...
Et ça avait vraiment touché la corde sensible de tout le monde entier.
Là,
du monde entier, oui. Alors, à tort ou à raison, en fait... Je dis à tort parce que les gens s'indignent 5 minutes et puis après, ils oublient immédiatement.
Ouais.
Et à raison parce que c'est véritablement une espèce menacée.
Ouais.
Alors oui, effectivement, sur les médias sociaux, on a parfois des exemples
et moi,
de ça.
Et moi, c'est mon petit bout de chiolage. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue là-dedans. C'est qu'on dit que la chasse au gros gibier, c'est un sport.
Non.
Alors, un sport, c'est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pour donner lieu à des compétitions. Je m'excuse, mais quand tu es assis dans une Jeep roulant à 150 km/h pour être capable de pogner un léopard, que tu as une
avec
carabine
des rabatteurs,
avec des rabatteurs, avec un fusil qui a une lunette dessus pour te permettre de mieux viser, écoute, c'est plus un sport.
Non.
OK? Il y a eu ici, en Colombie-Britannique, à toutes les années, à toutes les fois que la chasse à l'ours grizzly est ouverte, il y a effectivement des mouvements dans les médias, dans les organismes. Et j'ai trouvé un site qui est très enrichissant. On apprend des choses, mais qui est aussi totalement aberrant. C'est un site du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique. Je ne l'ai trouvé évidemment qu'en anglais. Si vous voulez le prendre en note, c'est « Grizzly bear hunting, frequently asked question ».
OK. Donc, sur Google, on le trouve facilement en tapant « Grizzly bear hunting, frequently asked questions ».
Ça date d'octobre 2010. Il y a eu des tout petits changements par rapport à ça. Alors, on nous explique là, c'est quoi où on peut trouver des ours grizzly. Évidemment, on n'en a pas ici sur l'île, là, sur l'île de Vancouver.
Très rarement.
Il n'y en a pas ici, et c'est juste parce qu'ils ont nagé et on les tue tout de suite.
Oui, en fait, c'est des mâles qui viennent passer quelques temps dans le nord de l'île parce qu'ils ont été expulsés de leur territoire par d'autres concurrents, mais ça ne dure pas très longtemps.
Ils doivent retourner là où ils sont les femelles. Et il y a différentes sections. Alors là où on ne peut pas chasser du tout, là où on peut chasser, de là où les ours... lorsqu'ils se trouvent dans leur territoire naturel, tout près des grandes villes, on les prend et on les ramène dans le nord. Et moi, ce que j'ai trouvé totalement aberrant, c'est qu'il y a une expression que j'essaie de trouver. OK. On dit « How the ministry determine the level of hunting mortality that is sustainable? » Alors, le niveau de mortalité qui est
soutenable. Oui.
Bon, pour moi, c'est le ministère de l'Environnement.
Oui, donc c'est de une gestion de stock, finalement.
C'est une gestion de stock, c'est ça.
Le but de générer des fonds aussi.
Ben, écoute, ça peut coûter jusqu'à 50 000 $. Si on fait une recherche « Grizzly Hunting BC », alors ça s'organise en Alberta et en Colombie-Britannique, si on fait ça, C'est incroyable. Il doit avoir 150 sites de publicité. On va vous organiser un voyage.
Mm-hmm.
Maintenant, le gouvernement a dit que maintenant, parce qu'ici, c'est par tirage au sort. Je fais ça très court, parce que je sais qu'on est pris dans le temps. Alors ici, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de permis qui sont accordés.
Oui, en fonction des stocks, ouais, entre guillemets. Oui,
ouais. Et il y a une loi, il y a un projet de loi qui a été déposé il y a une couple d'années par un représentant du Parti vert, là, j'ai oublié.
Oui.
Et c'était pour au moins limiter, parce que maintenant, c'est juste une chasse aux trophées.
Oui, oui, oui.
Hein? Parce qu'on peut, peut prendre la tête, on peut prendre les peaux, on peut prendre les pattes et laisser le restant pourrir.
Mm-hmm.
Mais
ce qui est obscène.
Ce qui est totalement obscène. Alors, mm-hmm. Le projet de loi était pour forcer les gens à amener la viande avec eux.
Ah oui, bien vu. Et est-ce que ça a été adopté?
Non, pas encore.
D'accord.
C'est encore sur la tablette. Le problème, c'est que la viande de grizzly, c'est pas une viande qui goûte très bon, paraît-il, et elle peut donner une maladie, c'est créé par un parasite, là, c'est avec des vers, une affaire de vers, là, mm-hmm. Et les gens ne veulent pas manger la viande.
Non.
Alors, c'est pas un sport.
Ils veulent juste parader avec le trophée.
C'est ça.
Et avoir l'air de quoi? Je sais même pas parce que ça m'échappe un peu.
Moi
là.
Aussi, je comprends
c'est,
pas le principe.
C'est
là.
Une façon d'atteindre... C'est un symbole de statut social, j'imagine.
Ouais, ouais.
C'est un symbole de puissance.
Ben écoute, pour tuer un éléphant en Afrique, ça coûte 50 000 $.
Voilà.
Alors, ouais. C'est facile d'avoir des poachers, hein, des
braconneurs.
Des braconneurs, des braconniers, qui vont vendre... un permis de... Ben, c'est même pas des permis, là.
Ouais.
Alors, voilà.
Alors,
c'était mon chien à l'âge de la semaine.
Voilà, le verdict est rendu. Ça n'est pas un sport.
C'est pas un sport.
Merci, Marie-Hélène.
Ça m'a fait du bien.
Thank you.
écoutions à l'instant Far More Blue, une pièce tirée de l'album Tribute to Dave Brubeck de l'ensemble de jazz Rémi Bolduc. Nous ouvrons à présent le volet Santé et mieux-être de Sport et Santé Magazine et nous allons commencer par un survol des actualités des derniers jours. Démence, vivre près d'une autoroute augmente les risques. C'est un article qui paraît dans les colonnes de la presse canadienne. Les gens qui vivent près de routes très achalandées semblent être plus sujets à développer de la démence que ceux qui habitent plus en retrait de ces artères, indiquent des chercheurs, suggérant que la pollution de l'air engendrée par les véhicules pourrait être un facteur de risque de la maladie neurologique. Une étude publiée cette semaine dans la revue The Lancet indique que des résidents de l'Ontario qui habitaient dans un giron de 50 mètres de distance d'une autoroute ou d'une route à fort débit de circulation ont couru 7% plus de risques de développer de la démence que ceux qui vivaient à plus de 300 mètres des artères achalandées. Et toujours à propos de santé mentale et de congestion routière ou de pollution routière, la congestion routière affecte la santé psychologique. C'est rapporté dans le journal de Montréal sous la plume de la journaliste Marie-Ève Dumont. Des experts s'inquiètent pour la santé psychologique des automobilistes qui perdent 3 millions d'heures par année en restant coincés sur 5 des axes les plus achalandés au pays, selon une étude publiée il y a quelques jours. Passer une heure dans le trafic matin et soir serait aussi mauvais sur la santé psychologique que de perdre son emploi, a résumé Jacques Forêt, professeur à l'ESG UQAM. Dans cet article, la chercheuse Annie Barek, également interviewée dans cet article, une chercheuse de l'Université de Montréal, a également établi un lien entre la congestion routière et l'épuisement professionnel. Lorsque nous sommes coincés dans le trafic, a-t-elle commenté, nous perdons le contrôle de notre déplacement, ce qui nous fait augmenter notre niveau de stress, c'est ce stress accumulé qui peut mener à des problèmes de santé mentale. Donc, vous trouverez cet article dans le portail du Journal de Montréal. La congestion routière affecte la santé psychologique. Et nous nous transportons à nouveau dans les colonnes de la presse canadienne. L'exercice physique a des propriétés anti-inflammatoires. Une seule séance d'exercice physique d'intensité modérée d'une durée de 20 minutes a des propriétés anti-inflammatoires, ont constaté des chercheurs américains. Les scientifiques de la faculté de médecine de l'Université de la Californie à San Diego précisent que l'exercice physique stimule le système immunitaire, ce qui entraîne ensuite une réponse anti-inflammatoire au niveau cellulaire. L'exercice provoque notamment la production d'une protéine qui joue un rôle essentiel dans l'inflammation locale et systémique et qui aide à stimuler la réponse immunitaire. Les chercheurs croient que cette découverte pourrait aider les millions d'individus qui sont aux prises avec une inflammation chronique et plus précisément les 25 millions d'Américains qui souffrent d'une maladie auto-immune. Les conclusions de cette étude sont publiées par le journal médical Brain Behavior and Immunity. Et sinon, je vous rapporte le titre d'un article que publie Jean-François Clich dans le portail du journal La Presse sur Internet, le curcuma épice miracle ou trou noir pour la recherche, point d'interrogation. Donc le curcuma, c'est cette épice qu'on appelle en anglais le turmeric. Et donc Jean-François Clich, dans cette note de blog, s'interroge sur les vertus réelles ou imaginaires du curcuma. Dans la foulée d'une étude très, très intéressante, écrit-il, à propos du curcuma, épice à laquelle on prête une liste de vertus aussi longue qu'improuvée, j'ai fait un petit test pour vous. Donc ce test, en quelques mots, soulève beaucoup de doutes. En effet, on aurait exagéré les vertus du curcuma. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cet article, le titre c'est « Le curcuma, épice miracle ou trou noir pour la recherche ?» Point d'interrogation. Sinon, on s'en va du côté de La Presse, les pages du cahier santé de La Presse, un article sous la plume de Stéphanie Bérubé, un logo pour les aliments malsains. Ottawa va imposer à ceux qui commercialisent des produits riches en gras saturés, en sucre et en sel, de l'afficher clairement sur le devant de leurs emballages avec un nouveau logo, le même pour tout le monde. Ce faisant, Santé Canada croit que plusieurs fabricants préféreront changer leurs recettes afin d'éviter cette mauvaise publicité. Les membres de l'industrie peuvent éviter le symbole proposé sur le devant de l'emballage en réduisant les quantités de sucre, de sodium et de gras saturés dans leurs produits, estime l'organisme dans ses documents préparatoires. Nous sommes bien contents de cette première étape, a estimé Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui a déjà envoyé ses recommandations à Ottawa. Parmi celles-ci, l'importance d'adopter un règlement qui limiterait les autres allégations. Passons rapidement vers cet article paru dans les colonnes de l'Associated Press. Mieux vaut s'entraîner un peu que pas du tout. Les gens qui s'entraînent un peu réduisent leur risque de mourir d'ici 10 ans presque autant que ceux qui s'entraînent régulièrement, selon des chercheurs britanniques. Des experts estiment que cela devrait servir à motiver les gens sédentaires qui croient qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner assez pour respecter les normes suggérant 150 minutes d'activité modérée ou encore 75 minutes d'activité intense chaque semaine. Les chercheurs de l'Université britannique de Loughborough ont analysé les questionnaires remplis par 64 000 adultes en Angleterre et en Écosse entre 1994 et 2008. En date de l'an dernier, quelques 8 800 participants étaient décédés. Donc, c'est à partir de ces questionnaires que les chercheurs ont tiré leurs conclusions. Mieux vaut s'entraîner un peu que pas du tout. Et sinon, dans les pages du magazine L'Actualité, faut-il avoir peur des lampadaires à Dell, donc ces éclairages publics dotés d'électrodes luminescentes, électroluminescentes, ce qu'on appelle en anglais LED, les études révélant les effets négatifs de la lumière bleue sur la santé ont été réalisées dans des contextes très différents de celui de l'éclairage public, écrit la journaliste Valérie Borde. L'éclairage des rues par diode électroluminescente, DEL ou LED si vous préférez, qu'envisage d'adopter la ville de Montréal et bien d'autres villes au Canada et dans le monde, ne pose pas de problème de santé. Alors c'est plutôt la température de l'éclairage, peut-on apprendre dans cet article, qui est capitale. Il y a un certain degré de lumière bleue et on ne parle pas de la température au toucher ni d'une température brûlante, mais plutôt d'une température de couleur. Alors c'est vraiment important de calibrer la température afin que la température d'éclairage, afin que l'œil humain ne soit pas induit en erreur. Et cet éclairage, s'il est mal calibré, peut causer des problèmes d'insomnie ou des troubles de sommeil dans la population. Alors, c'est ce qui inquiète municipalités, les citoyens, alors que s'installent de plus en plus, un peu partout, des lampadaires à éclairage DEL. Alors, c'est un sujet fort intéressant. Vous trouverez ça dans l'actualité. Faut-il avoir peur des lampadaires à DEL? Point d'interrogation. Voilà qui conclut ce rapide tour des actualités récentes en santé et mieux-être. Restez à l'écoute. Sport et Santé Magazine se poursuit dans quelques instants avec la chronique de Julie Gagnon qui nous parle cette semaine des questions éthiques et sanitaires entourant la procréation d'un bébé à 3 parents. Vous avez bien entendu, un bébé à 3 parents. Restez à l'écoute.
De retour dans Sport et Santé Magazine, merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. C'est toujours la portion santé de l'émission qui se poursuit. Nous parlons d'un sujet étonnant, on nage en pleine science-fiction, le bébé à 3 parents. Et pour en parler avec moi, j'accueille Julie Gagnon. Bonjour Julie.
Bonjour Alexis.
Alors, comment ça fonctionne, le bébé à 3 parents?
En fait, le bébé à 3 parents est arrivé cet automne
pour pallier un problème avec des maladies génétiques, en fait. Donc, ce qui se produit, c'est qu'on prend l'ADN de deux femmes dans l'embryon pour éviter la transmission, justement, des maladies héréditaires de la mère. Ce qui se passe, c'est qu'on prend un ovocyte d'une mère qui se porte volontaire et on y retire l'ADN de la mère et on y injecte celui des parents, dans le fond, de l'ADN de la mère et du spermatozoïde du père. Et comme ça, on arrive à faire un enfant à trois parents. Ça permet de minimiser les transmissions des gènes défectueux et c'est en fait l'équipe du Dr. John Zhang du centre New Hope Fertility de New York qui a fait cette opération au Mexique puisqu'elle est interdite aux États-Unis. C'est donc dans ce cas-ci, ce qui était responsable de la procédure, c'est le syndrome de Lee, dont la mère était porteuse. Elle a eu deux enfants auparavant. Les deux sont décédés de ce syndrome. Donc, elle s'est tournée
vers la science.
Exactement.
Les savants fous qui travaillent dans des pays émergents ou du tiers-monde avec leurs laboratoires. La démarche a fonctionné, finalement.
Effectivement, la démarche a fonctionné. Le bébé est né il y a quelques mois de cela. On annonçait sa naissance au mois de septembre et on disait qu'il était vivant depuis 5 mois. Donc, on peut se dire donc pratiquement 1 an, le bébé. En plus, il est en pleine santé, selon le Dr Zhang. Donc, l'opération aurait réussi selon ses paramètres à lui. Hein. On se rappelle, il a fait l'opération au Mexique. Les réglementations et le suivi n'est pas le même qu'aux États-Unis.
D'accord. Alors, est-ce qu'on parle de parents qui peuvent certifier leur parentalité un tiers, un tiers, un tiers, ou est-ce que c'est décliné différemment?
En fait, il y a un docteur qui s'appelle Griffaut qui lui pointe que l'appellation bébé à trois parents n'est pas vraiment une bonne façon de le présenter parce qu'il nie en fait et dénigre les parents qui en ont besoin parce que dans le fond, la seule utilité du troisième parent est de fournir une enveloppe pour le développement du bébé et de l'embryon. Mm-hmm. Alors son rapport n'est pas un tiers, un tiers, un tiers, mais vraiment l'ensemble du bébé va être constitué des deux parents, à la fois la moitié de la femme et la moitié du père.
D'accord. Donc, c'est vraiment le troisième parent, donc la femme en l'occurrence, puisqu'il
oui.
s'agit d'une femme, apporte vraiment un nombre minime de gènes dans l'équation, mais c'est quand même capital pour assurer la santé du bébé.
Absolument. En fait, ça va éviter qu'il y ait une multiplication et la transmission de certains gènes qui se retrouvent dans la mitochondrie, dans l'enveloppe fournie par la deuxième mère, dans le fond. Donc, évidemment, son impact est très, très grand, mais finalement minime chez l'enfant.
D'accord, d'accord. Donc, cette personne-là n'est pas fondée à réclamer des droits parentaux, par exemple.
C'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc, à date, dans ce cas-ci, on n'a pas vu la mère réclamer des droits ou un droit de visite ou, mm-hmm. ou même des réclamations monétaires. On ne sait pas les détails si l'ovocyte a été vendu ou s'il a été offert gratuitement. C'est des détails qu'on
Bien
ne connaît pas encore qui pourraient changer tout le paradigme éthique de cette opération,
voilà.
évidemment.
Le droit est concerné, l'éthique, bien sûr. Est-ce que c'est une technique qui est sans risque, Julie?
Non, absolument pas. C'est tout nouveau, hein. Donc,
ouais.
C'est quelque chose qui, en procréation artificielle, vient tout juste d'arriver, qui n'a pas été fait sous des règles rigides ou des procédures imposées par certaines règles ou certains scientifiques. Quand ça a été fait au Mexique, donc les gens de la communauté scientifique sont très alarmés par ça, parce qu'on n'a pas les détails de l'opération et du processus. Donc, c'est évidemment pas sans danger. Pour l'instant, le bébé est vu comme un enfant en pleine santé, mais on ne sait pas si dans le futur, il développera le syndrome de Lee, parce qu'il faut rappeler que le bébé, on a découvert qu'il avait 1% de ses cellules qui contenaient le syndrome de Lee. Donc, c'est très, très, très minime. Ça pourrait ne pas se développer, mais on ne sait pas à long terme c'est quoi les impacts de cette opération.
Alors, ce fameux docteur Zhang a au moins eu la transparence de dire qu'il y avait quand même une trace de syndrome dans le bébé à trois parents. Intéressant. Et sinon, est-ce qu'il compte reproduire l'expérience? Est-ce qu'il compte monétiser, entre guillemets, cette pratique?
Ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui alarme, en fait, tous les organismes internationaux de bioéthique, etc., que cette façon de procéder soit monétisée pour rajeunir un ovocyte. Pour des femmes qui sont de plus de 40 ans, il y aurait un très, très grand marché pour ça. Oui. Il y aurait aussi un très grand marché pour toutes ces maladies transmises par les gènes. Mais il y a aussi, il faut se rappeler, quand on modifie un ovocyte, quand on modifie un embryon avec l'ADN, il y a un danger d'eugénisme. Donc, on ne sait pas si le docteur oui. Zhang a ça en tête, de reproduire, de continuer de faire les choses de cette façon, mais on sait qu'il y a un danger à cette façon de faire.
Oui.
Et d'autant plus qu'elle n'est pas supervisée par des comités éthiques ou des organismes. Donc, il y a vraiment un très, très grand danger à la perpétuation de cette technique.
Oui, en effet, l'eugénisme, qui est une pratique qui cherche à créer une race supérieure, en guillemets, ou qui cherche à créer des êtres parfaits. Et c'est en effet bien subjectif, tout ça, et un terrain très glissant. Ça me rappelle un peu ce chercheur coréen qui prétendait avoir cloné des humains il y a quelques années. Ça rappelle un peu les enjeux du clonage, évidemment. Donc ça a pu avoir lieu, ça a pu se faire. Tu évoquais quelques pistes d'avenir. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Évidemment, il y a ce qu'on appelle le CRISPR, oui, CRISPR-Cas9,
oui.
Qui est une façon de procéder qui s'apparente un peu à ce qu'on a vu voir, à ce qu'on D'accord. a pu voir dans cette opération-là, qui est de modifier l'ADN carrément avec un ciseau, de couper ouais. des morceaux qui sont défaillants, qui sont et de les remplacer, c'est complètement surnaturel.
Un nano-ciseau.
Oui, exactement. Et donc, ça aurait permis en Chine de créer des enfants résistants au VIH. Donc là, on parlait tantôt de super-humains, oui. d'eugénisme, etc. Donc là, on arrive à des enfants qui sont apparemment capables de résister à un virus aussi mortel que le sida. Donc ça, c'est une approche qui est très, très, très similaire et qui est tout aussi inquiétante à certains moments, évidemment, pour les éthiciens de ce monde. Il y a d'ailleurs un organisme qui s'appelle Stop Bébé OGM. On aime quand même l'image.
Oui.
L'image est très, très forte, qui justement alarme la population française des dérives possibles de ce genre.
Oui, puis en même temps, comme tu l'expliquais, il y a une demande très forte oui. de la part de couples, de femmes qui souhaitent ardemment avoir un enfant à tout prix. On a vu que Janet Jackson avait eu un enfant il y a quelques semaines, il y a quelques jours, elle a 50 ans.
Oui.
C'est assez courant chez les gens fortunés et chez les vedettes aussi, on observe ça. Donc, une très, très forte demande qui va exercer une grande pression sur les autorités réglementaires. C'est à suivre. Alors, on est loin du bébé qu'apporte une cigogne sur le pas de la porte ou le bébé qui grandit dans un chou. Il faudrait peut-être réviser les ouvrages.
Absolument.
Alors, le bébé a trois parents. Je sens qu'on va en parler encore longtemps. Julie Gagnon, un gros merci pour cet éclairage et à très bientôt.
Merci, Alexis.